baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel, émission baroque et classique dans la France du XVIIe siècle, avec Philippe Frétinier pour notre cinquième émission. Alors la dernière fois, vous aviez, après nous avoir dressé un portrait, un paysage plutôt, de la France au XVIIe siècle, parce que c'est là que vos travaux se placent plus particulièrement, vous avez conclu par, notamment, par Richelieu, la création de l'Académie française. Alors ça, c'est assez surprenant comme ça, je crois, pour la plupart d'entre nous, des auditeurs, parce que, encore une fois, le baroque, c'est plutôt la musique, c'est plutôt l'architecture, mais la littérature, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous est très naturel comme ça. Or, l'Académie française, c'est les lettres.
Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut préciser, pour bien voir la singularité de la création de l'Académie française et le pourquoi auquel je vais venir, c'est que les autres académies, que ça soit d'architecture, de peinture, de danse, de musique, toutes ces autres académies ont été fondées nettement plus tard dans le XVIIe, sous le règne de Louis XIV. Alors pourquoi Richelieu se préoccupe de créer une académie qui va en quelque sorte être là pour créer des veillées à l'application des règles de la langue française, créer des canons en quelque sorte? Parce que justement, dans la littérature, contrairement aux autres arts où c'est plus complexe, il y a un vrai moment baroque dans l'histoire de la littérature française. Alors qui va finalement durer assez peu de temps, mais qui va beaucoup questionner ce qu'aujourd'hui on appellerait les élites, parce que c'est vraiment dans l'influx, dans le sillage de ce que j'appellerais un baroque européen, en tout cas italien et espagnol. La création de l'Académie française n'arrive pas par hasard, parce que ce moment résolument baroque, entre guillemets, encore une fois, dans la mesure où ces termes ont un sens, mais là on pourrait, par commodité, l'employer quand même. En gros, ça dure de 1580 à 1630. Alors je ne vais pas citer beaucoup d'auteurs, parce que c'est d'abord, il y a finalement assez peu de littérature à ce moment-là en France, mais par contre, elle est franchement baroque. C'est beaucoup des auteurs qui sont très peu connus du public. Donc alors,
on va y revenir, mais juste, vous semblez dire que quelque chose d'important, mais j'ai peut-être mal compris, mais la création de l'Académie française, c'est le souci de poser des règles dans la langue à un moment où justement cette langue peut être considérée comme baroque. Est-ce que c'est parce que la langue baroque ne connaissait pas de règles, ou bien est-ce que c'est parce que la langue française était encore très floue dans ses règles d'usage?
Non, je crois que, enfin bon, il y a sûrement beaucoup des choses dans une sorte d'inconscient collectif du moment, hein. Mais ces choses qui viennent d'Italie et d'Espagne sont perturbantes par rapport à la notion d'ordre qu'on peut avoir.
Et on peut avoir en France, c'est ce que vous voulez
oui,
dire.
Oui, en France, oui. Donc, pour situer à peu près, je vais citer très peu d'auteurs, mais les écrivains protestants comme Agrippa d'Aubigné, les écrivains catholiques comme Honoré d'Urfey, Pierre Corneille, Scudéry, les gens qu'on va trouver à l'hôtel de Rambouillet. Donc voilà.
Ce sont des gens qui ne sont pas beaucoup lus aujourd'hui, en dehors de Pierre Corneille, bien sûr.
Oui.
Enfin,
Malherbe aussi, que je peux citer.
Malherbe peut-être un peu plus, oui. Mais ce ne sont pas des écrivains qu'aujourd'hui, beaucoup de gens...
Non, mais de toute façon, quand on regarde de près, finalement, moi j'ai fait une petite recension comme ça. Il y a à peu près une quarantaine d'œuvres. Alors la poésie, il y a une poésie assez importante, mais d'auteurs très peu connus. Théophile Deviau étant sans doute le plus connu. Donc, celui qui a écrit après m'avoir fait tant mourir. Enfin bon. Mais donc, au théâtre, par contre, il y a une figure marquante, c'est Pierre Corneille. La petite recension que j'ai faite, ça tourne autour d'une quarantaine d'œuvres, et il y en a vraiment une douzaine qu'on pourrait qualifier de baroque. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de voir que ce qui s'est passé en Espagne, en Italie, des fois un peu avant ou même largement avant, a beaucoup influencé les lettres françaises, parce qu'il y a eu, dans la foulée du Concile de Trente, une importance très grande et une prééminence quasiment des jésuites. Alors pourquoi une prééminence des jésuites? Parce que c'est un ordre prêcheur en fait. Hein. C'est celui qui, en plus, est organisé comme une armée. Hein, le supérieur général des, on parle du supérieur général des jésuites. Hein, c'est vraiment les soldats du Christ. Et c'est eux qui vont être le fer de lance du message de la contre-réforme initié par le Concile de Trente. Donc il y a un très fort courant jésuite avec des figures marquantes qui vont donner à la littérature des œuvres extrêmement importantes, comme par exemple Gracian ou Calderón de la Barca, qui sont donc des auteurs espagnols. Et ces auteurs vont écrire des ouvrages qui vont être traduits et lus et relus dans toute l'Europe de l'époque, et notamment en français. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ces auteurs sont traduits directement en français. Par exemple, la traduction la plus connue, c'est celle d'Amelot de la Housset, qui est une traduction du XVIIe. Et c'est traduit directement en français parce qu'en fait...
Oui, parce qu'on aurait pu supposer que le latin restait la langue de...
Non, parce qu'il y a eu un tournant précédemment, qui est un tournant à bien des titres, une figure centrale de l'histoire des lettres françaises au XVIe siècle, c'est Montaigne, qui n'est pas le premier, comme vous savez, à écrire en français. Il y a eu Rabelais avant lui. Hein. Mais Montaigne, c'est un vrai tournant parce qu'il utilise ce qu'on appelle la langue vulgaire, dans l'acception savante du terme.
Appuyé par les dits de Villers-Cotterêts, de François Ier, qui déclare que le français est langue officielle, etc. Enfin, c'est fait juste avant le XVIIe siècle.
Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire cette volonté de franciser, hein, cette idée de récit national, même si la notion de récit national est très très récente. Hein,
Mais
l'idée était là, en fait. Hein. C'est pas par hasard si, justement, on parle de récit national, parce que c'est la descendance de ces projets. Alors, Montaigne est un tournant parce que, en plus, d'une certaine façon, son sujet, c'est lui-même, c'est l'introspection, et c'est « que suis-je ?». Hein. Ça va absolument être important. Lié à ce que j'ai dit de l'histoire des sciences que je vais rappeler, notamment j'ai parlé de Kepler et du décentrement du monde, hein, puisque oui. Kepler introduit avec sa troisième loi la trajectoire elliptique des orbites. Et donc, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que du temps de l'héliocentrisme, mais même du géocentrisme, d'une certaine façon, l'univers était clos, hein, il y avait la sphère terrestre à l'intérieur de la sphère céleste. Et donc, ce centre rendait quelque part visible la présence de Dieu, symboliquement évidemment. Avec le décentrement du monde, comme il y a deux centres, plus la révolution de l'infini, parce que j'aurais pu préciser en parlant des mathématiques, il y a aussi la révolution de l'infini au XVIIe siècle, Dieu s'éloigne du monde. C'est-à-dire que l'infini repousse hors du champ.
Oui, comme on l'avait dit lors de cette émission, c'est une sorte de dieu scientifique.
Voilà. Et, non plus et en même temps, il est projeté très loin de nous. Et d'ailleurs, cette phrase de Pascal, « Cet étrange secret dans lequel Dieu s'est retiré, impénétrable à la vue des hommes. » Voilà, ça résume tout. Hein. Et donc, cette chose va faire que il y a un questionnement quasi ontologique qui va survenir. Hein.
Oui, et la responsabilité individuelle, c'est celle que Montaigne finalement pose en faisant du sujet un acteur de lui-même et non pas l'objet d'un destin décidé.
Absolument. Et ça, c'est très très important. Alors, en même temps, ça veut dire que justement, il y a cette idée du théâtre du monde, c'est-à-dire que on ne sait plus très bien ce qui est l'apparence ou la réalité, parce que l'idée des deux centres, hein, d'un seul coup, et s'il n'y a plus de centre, on ne sait plus où on est. Hein. Et donc, cette idée de théâtre du monde va être formalisée alors par un ouvrage qui va connaître un grand retentissement qui s'appelle « El Gran Teatro del Mundo » de Calderón de la Barca, hein, qui est donc... une pièce de théâtre, cette pièce est écrite en 1655, et c'est une pièce de théâtre qui étudie la vie humaine en tant que pièce de théâtre. Hein. C'est-à-dire que le monde est une scène de théâtre où les acteurs évoluent. Mmh. Hein. Et cette idée-là, même si elle est formalisée vraiment en 1655, elle existe déjà avant, et on en parlera d'ailleurs en ce qui concerne Corneille, 25 ans avant. C'est exactement cette idée d'une scène, d'un théâtre scène du monde.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous dire aussi, au travers de tout ça, avec Gracian, avec Calderón de la Barca, etc., c'est que là où, de toute façon, il y avait auparavant une vérité révélée qui était incontournable, centrale, référence absolue, permanente de toute la littérature au fond, eh bien, va être un peu écartée. C'est-à-dire qu'on va dire l'homme, d'une part, a une forme de liberté, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'unique objet d'un destin totalement écrit d'avance, il est acteur aussi. Par contre, la vérité, il ne la connaît pas. Il la suppose, il considère qu'il y a une vérité qui s'appelle Dieu, mais elle est, comme le disait Pascal, quelque chose de l'ordre d'un secret très éloigné qu'on n'est pas capable d'aborder, quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est ce qui va se passer dans la littérature, d'une certaine façon. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de Dieu omnipotent, etc. Il y a l'homme qui, en gros, construit son parcours avec un ensemble de leurres, en fait, voilà. Ou d'illusions, ou d'une réalité très indéterminée.
Et ça, c'est vraiment une chose marquante, c'est que finalement, comme on parle du monde comme de la scène d'un théâtre, il y a cette idée très vite qui vient derrière de l'artifice, de l'illusion, où est le réel. Et on va aller loin, on va aller même dans une mise en abîme qui est une des caractéristiques aussi du baroque littéraire, puisque le spectateur devient acteur en tant que celui qui regarde ce qui se passe sur la scène du théâtre, et d'une certaine façon, donc, il y a un théâtre dans le théâtre. Mmh. Hein? Donc, c'est vraiment très important à comprendre, parce que ça va irriguer absolument tous ces courants de littérature, aussi bien italien qu'espagnol et que même anglais, parce que j'ai mentionné dans l'émission précédente qu'il y avait deux pays qui résistaient à l'idée d'être baroque. Les Anglais sont au moins aussi réticents que nous. Alors, il y a entre guillemets moins d'art baroque, ça s'explique pour différentes raisons. Puis par exemple à Londres, il y a eu le fameux grand incendie début du 17e, donc il a fallu il est pas resté grand chose de la Londres d'avant. Et puis il y a eu vraiment cette vogue du paladisme, c'est-à-dire l'architecture paladienne, hein, alors là très classique, très très retour à l'Antiquité. Mais il y a pourtant le plus grand monument, la plus grande gloire artistique de l'Angleterre, avec des musiciens, je m'empresse de le dire, comme William Byrd ou Purcell, mais une des plus grandes gloires de toute l'histoire de l'Angleterre, qui est Shakespeare. C'est vraiment l'exemple même du baroque, mais les Anglais sont absolument encore aujourd'hui réticents à considérer que Shakespeare est un auteur baroque.
Alors on va revenir à Shakespeare juste après une pause musicale, dont je vous laisse nous dire un mot.
Il s'agit d'un impromptu de Schubert, toujours joué par l'un de mes interprètes préférés, en l'occurrence Jean-Claude Pelletier. Thank you.
nous parliez juste avant la pause musicale de cette très grande star baroque, c'est pas une star rock, mais une star baroque, qui était Shakespeare, alors qui est un peu, au moins, présente deux grandes facettes, c'est-à-dire toutes ces grandes tragédies, évidemment, tous les titres que tout le monde connaît, Hamlet, Macbeth, les tragédies sur les rois d'Angleterre, etc. Et puis celui qui vous intéresse sans doute plus particulièrement, le Shakespeare des... On ne peut pas vraiment appeler ça des comédies, puisqu'il y a toujours des choses très grinçantes, de tragicomédie, enfin, c'est, ouais. Je vous laisserai le définir un peu, comme par exemple La Tempête ou Le Songe d'une nuit d'été.
Oui, mais c'est la notion de tragicomédie est très très pertinente parce que c'est comme ça qu'on va en parler à l'époque. Corneille va même employer le terme. C'est vraiment la question de la lecture du théâtre, du monde à travers le théâtre. Hein. Et chez Shakespeare, dans les tragicomédies, c'est ça. La notion de la lecture du monde à travers le théâtre est la mise en scène. Mmh. Hein. Et cette notion c'est que le comédien en fait est un personnage incarné et qui reflète l'image même du spectateur. Hein. D'ailleurs, dans le songe, j'avais noté cette phrase là puisque je l'ai relu il y a pas longtemps. Donc je cite Shakespeare dans le songe le monde entier est un théâtre et tous hommes et femmes n'en sont que les acteurs. À notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles comme il vous plaira. Mmh. Voilà. Donc,
oui, c'est clair. Là, on reprend bien voilà. L'idée, donc, l'idée du théâtre du monde.
Alors, c'est pas une. C'est une notion très importante à l'époque baroque et dans le théâtre baroque, qui va être portée haut et loin par Shakespeare, par Corneille. Ça n'est pas une nouveauté parce qu'en fait, c'est une notion qu'on retrouve dans l'Antiquité grecque. Hein. Donc, mais on a parlé déjà de comment l'Antiquité était nourricière de tout ce qui se passe à partir du XVIe et au XVIIe.
Peut-être que l'idée du destin était plus forte, non, quand même, dans la Grèce antique.
Oui, mais oui et non, parce que c'est quand même... c'est pas incompatible avec le destin, parce que, par exemple, dans les entretiens d'Épictète, il introduit cette notion que l'homme a un rôle à jouer dans le monde, mais il ne doit pas outrepasser son rôle, hein, parce qu'il a aussi un devoir envers les dieux. Hein. Donc ça n'est pas en opposition, l'idée de théâtre et de destin. Hein. Je ne sais pas si je suis clair, parce que ça m'a pris un peu...
Oui, non, mais c'était une question de ce qui me venait comme ça, parce qu'on a l'habitude, dans les tragédies grecques, de faire cette référence à un destin qui, de toute façon, est inéluctable, comme si la fin de la tragédie était d'emblée annoncée, ou presque, quoi, oui. Notamment par le cœur. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Chez Shakespeare, c'était...
Voilà, absolument, oui, non. Mais même dans l'Antiquité, c'est plus compliqué.
Hein. D'accord.
Voilà. Donc, c'est vraiment... l'idée que à partir du théâtre, donc il y a cette idée de merveilleux. Il y a aussi deux courants dans la littérature baroque qu'on pourrait appeler le courant pastoral, qui est la mise en scène du monde poétique, de la campagne, des fées, de Circé, et puis cette notion tragique de la mort. Hein. Au fond, c'est la Venusta et la Terribilitas. Hein. Alors, toujours pour préciser, pour être précis, la Venusta, bon, on voit d'où ça vient étymologiquement, c'est vraiment la grâce, la beauté. Hein. Et la Terribilitas, évidemment, c'est la terreur, et donc c'est la mort. Hein. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'à l'époque baroque, je vais revenir un petit peu sur les auteurs baroques qui ont été très importants dans l'élan de la littérature baroque en France, mais c'est très intéressant de voir que, justement, je parlais des arts de l'éphémère qui ont été très importants au XVIIe, donc la mort est omniprésente. Par parenthèse, il faut dire qu'elle est d'autant plus présente, qu'elle frappe d'autant plus souvent que la maladie au XVIIe est très souvent un arrêt de mort.
Oui, avec des épidémies aussi.
Donc il y a les épidémies, et puis même en dehors des épidémies, la plupart du temps, la maladie, c'est un arrêt de mort. Oui. Hein. Donc il suffit de penser à ce qu'est la médecine en pensant à Molière. Hein. Donc, et si vous lisez les lettres de Madame de Sévigné, ce que je ne saurais trop recommander à cause de la beauté de la langue, vous voyez bien qu'elle a cette terreur constante de la mort, constante de la mort. Et en même temps, ça participe justement de ce théâtre du monde, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on transforme la mort en spectacle comme si on voulait quelque part l'apprivoiser, donc on déroule des fastes autour de la mort, et ça va prendre des proportions extraordinaires en France. Tout le monde a en tête, parce que logiquement, on a étudié ça au moins une fois au lycée, les oraisons funèbres de Bossuet, notamment celle à l'occasion de la pompe funèbre d'Henriette d'Angleterre, où il y a cette fameuse « Madame se meurt, Madame est morte ». Et il faut s'imaginer que l'intérieur de l'église, le cercueil est posé sur un gigantesque catafalque, l'église est entièrement drapée, décorée très richement. Ça va évidemment pousser au paroxysme lors des funérailles de Louis XIV. Pour avoir une idée, dans la basilique de Saint-Denis, le catafalque de Louis XIV, ça mesurait 30 mètres de haut.
Alors, ce que vous nous dites, au fond, c'est aussi que le baroque a un lien avec le jeu, ou du moins une façon de mettre en scène comme la vie simplement est une mise en scène. Vous nous parlez aussi beaucoup d'éphémère, avec le spectacle vivant, bien sûr que c'est forcément l'occasion de l'éphémère. Et vous faites référence à la mort. Tout ça fait penser à la question des vanités, justement. Je crois que là, c'est central aussi.
Oui, alors on en reparlera dans la peinture, mais on peut déjà en dire un mot. L'illusion renvoie aussi à la futilité des choses. Et donc, ça va donner un genre en peinture sur lequel j'espère avoir le temps de dire un mot quand on parlera de peinture, à ce qu'on appelle des vanités, c'est-à-dire qu'il y a dans le tableau des objets, en général, sont des natures mortes, hein. Alors, avec toute une symbolique assez compliquée, en dehors du crâne qui est toujours présent, c'est un des signes, une caractéristique de la peinture de vanité, c'est que quelque part dans le tableau, il y a un crâne, donc qui représente évidemment la mort. Alors, des fois, c'est complété toujours la question de la mise en abîme. Dans la nature morte, il va y avoir, par exemple, un sablier. Mais il y a aussi des objets qui sont symboles de magnificence, de puissance, et qui figurent donc dans le même espace de représentation que le crâne, qui est finalement là pour rappeler que tout ce qui est dans le reste du tableau, finalement, vanité, tout n'est que vanité.
C'est au fond un peu, pour revenir à Shakespeare, ce qu'il met souvent en scène, y compris dans l'autre partie de son œuvre, à savoir les grandes tragédies. Contrairement peut-être, alors vous allez dire que je fais beaucoup d'opposition avec la tragédie grecque, mais vous me corrigerez, hein, si bien entendu, mais chez les Grecs, on avait des héros très liés aux dieux, et chez Shakespeare, au fond, on a des gens qui pourraient être les héros de l'époque, les héros modernes, au moment de ce siècle-là, et ils ont tous quelque chose de dérisoire, au fond, parce que ces grandes tragédies avec ces grands personnages finissent toujours par pas grand-chose. Il n'en reste rien, ou presque, de ces grands personnages.
Oui, mais vous mettez le doigt sur une autre chose importante à l'époque baroque, et qui est justement la problématique du héros. Et parmi les ouvrages qui vont vraiment être importants dans l'espace littéraire du XVIIe, je parle de l'espace européen, il y a un personnage, alors toujours un jésuite, qui s'appelle donc Gracian et Morales, et qui va écrire un livre qui s'appelle Le Héros en 1630. Et pourquoi j'enchaîne à propos du héros shakespearien et du héros de Gracian? Parce que probablement que, on pourrait évidemment parler longuement de Shakespeare, mais le texte de Gracian est plus important dans le sens qu'il est plus connu. Hein, c'est un texte qui date de 1630 et qui, d'une certaine façon, c'est un manuel de conduite pour l'homme en tant qu'individu, mais aussi pour l'homme de cour. Parce que pour Gracian, il y a une sorte de dualité entre l'honnête homme, sur lequel je reviendrai quand je continuerai à parler de la littérature, et le surhomme qui bâtit l'histoire des autres. Hein, voilà.
Alors, on reviendra sur ces questions de la littérature justement dans la prochaine émission. Vous nous proposez, pour clôturer celle-ci, à nouveau un moment musical.
Il s'agit du deuxième mouvement de la Waldstein, toujours par Yves Nat.